Balado Diffusion est une production de Delta Media.
Bienvenue à la spéciale émission Top Décennie 70.
Wow, wow, wow. C'est ça.
Avec Katy Perry.
Oui, on l'a comme oublié, là.
Oui, oh, elle est partie. Bon.
Ah, salut. Les autres, tu peux pas participer, t'as pas donné tes listes en temps.
Elle est trop jeune, elle se souvient pas des années 70.
Moi, bon, j'étais même pas né.
Sérieusement, c'est, oui, l'émission Top Décennie 70 dans le cadre du concours. Retour vers le passé.
Wouhou!
Dernière tranche.
Oui, dernière, 99e aussi.
Oui.
99e. Oh yeah, Wayne Gretzky.
Et on en profite.
Oui.
Pour...
Faut le mentionner.
Féliciter notre producteur.
Nous allons donner... nous allons rendre hommage et donner cette émission en hommage à Ellie.
Notre producteur. Ben, à Ellie et sa copine. Oui, parce
sa famille.
Que ça se fait à deux, un enfant.
Sa petite famille au complet.
Alors, Béatrice... pas Béatrice Tom,
mais Béatrice Tom.
Béatrice, bienvenue dans le monde du cinéma.
Ben oui, là, elle est dedans. Là, elle. Donc, ben, bonjour, ben, félicitations à tous. Nouveau papa, nouvelle maman, nouveau bébé, en santé. Alors, longue vie. L'émission vous est consacrée. La 99e.
Et nous allons commencer par le top de François après la pause.
Vous aimez le cinéma? Vous êtes nostalgique? Alors, Cinémascope vous propose de reculer dans le temps en participant au nouveau concours Retour vers le passé. Pour participer, vous devez nous faire parvenir par courriel une liste de vos 10 films préférés, soit de la décennie 1990, 1980 ou 1970. Vous pouvez nous fournir les 3 listes, mais une seule suffit pour être éligible au concours. À gagner! Un film de votre choix parmi vos listes que vous aurez fournies, plus la trilogie Back to the Future en DVD, gracieuseté du club vidéo Cinécure, 840 Miran, Québec. Et pour couronner le tout, une magnifique réplique de la DeLorean à l'échelle 1/15e, avec effet de son et lumière, gracieuseté de la boutique Cinéma Passion, 51 boulevard René-Lévesque Est, Québec. Le tirage au sort aura lieu durant la 100e émission de Cinémascope en balado-diffusion, mise en ligne le 5 mai 2010. Pour tous les détails, consultez cinémascope.delta.net. Bonne chance à tous et à toutes!
Et voici maintenant le moment de découvrir le top décennie 70 de François.
Mais auparavant, parce qu'on a quelques amateurs et qui veulent toujours savoir qu'est-ce que nous buvons, parce que là, nous célébrons un grand cru. Les années 70
oui.
Est un grand cru.
Oui.
C'était une belle période. Alors, moi, je célèbre les années 70 avec une bière... La Sir Wallace Scotch Ale, qui vient de la brasserie à l'affût. À l'affût, qui est dans le secteur de la Montérégie. La Sir Wallace, qui fait référence à Braveheart. Cœur vaillant. Une Scotch Ale qui est dans mes préférés au niveau des bières. Alors, nous levons nos verres aux années 70. Et à vous tous, chers internautes et amateurs de bonnes bières et cinéma. Alors, nous allons commencer. Et comme les autres tops précédents... Je n'ai pas de préférence. C'est-à-dire, j'ai pas un numéro 1, le numéro 1, et le numéro 10, je fais que je les donne comme ça. Free for all. On va commencer par un... Bon, c'est tous des incontournables, mais le premier incontournable, avec ma feuille.
Et lisible.
Très lisible pour moi. The Godfather.
Je savais qu'il mettrait ça.
Ben oui, c'est sûr. Voyons donc. Et, mais je suis chien, et je suis moumoune, et j'ai pas été capable... J'ai mis le 2 avec le 1. Puis mon explication, il fait signe de non de la tête, Danny.
D'ailleurs, il nous a joué un tour l'autre fois à 80. Il mettait deux films à la fois.
Mais non, ouais, 12. Je faisais référence. Je faisais référence à un duo, Eddie Murphy en soi.
Ouais, ouais. Bon. Puis l'autre, là.
L'autre était les créatures.
Exactement. Bon. Subtil.
Oui, je suis très subtil, et encore ici, je suis subtil. Godfather, c'est un film en soi. Comme The Lord of the Rings. 1, 2, 3.
Ouais.
C'est un film en soi.
Mm-hmm. Ok, ouais.
Bon, puis Godfather 1 et 2, c'est un film. Un des chefs-d'œuvre du cinéma. Et on n'a plus rien à dire dessus, tellement on en a parlé.
Oui.
Mais ça vaut. Regarde, ça, c'est dans mes tops. Fait que The Godfather, bon, qui est sorti en 1972, le numéro 1, qui a gagné plusieurs prix aux Oscars, et le numéro 2, qui est sorti en 1974, l'année de ma naissance.
Et moi, je suis né en 1972.
Réalisé par Francis Ford Coppola. Alors, voici le premier que je vous ai dévoilé. Top 70. Le numéro 2, selon moi, le film d'horreur par excellence. The Exorcist.
Mm-hmm.
De William Friedkin.
Ouais.
En 1973. Ça, c'était encore là. Et c'est pas nécessairement. C'est sûr que les effets font date. Ils ont passé date là, un peu. Là. Mais c'est l'ambiance du film, l'atmosphère du film. Là. Juste le fait de prendre une petite fille puis de faire ça avec au cinéma, là, de le montrer, puis que ça va aux Oscars. Là.
Oui.
Ça a été nominé aux Oscars, ça, là. Les films d'horreur aux Oscars, oubliez ça, là, ça se voit plus. Ça passe pas la rampe. Il aime pas ça. C'est un sous-genre. Mais The Exorcist, c'était beaucoup.
C'était quelque chose.
C'était solide.
Adaptation du roman de William Peter Blatty.
Exactement.
Inspiré d'une histoire vraie.
Mmh, oui.
Une histoire des années 40, mais ça arrivait à un petit gars à la place. C'était pas une fille.
Ouais, ben ça, il a adapté. Là, c'est ça.
Ouais.
Alors, c'est sorti en 73, The Exorcist. On se souvient tous. Ben, moi, j'étais sûr que j'ai le coffret avec plusieurs versions. Alors. On se souvient tous de Megan qui descend les marches à l'envers.
Reagan?
Ah, excusez, oui, Reagan. Oui. Qui descend les marches à l'envers ou qui pisse sur le tapis. Ou qui on voit l'écriture sur son ventre. Help me!
Ou il y a la tête qui tourne.
Oui.
Qui fait
un 360. Alors, ceci étant dit, mon troisième, mais non le moindre, The Deer Hunter. En français, c'est Voyage au bout de l'enfer. Un film de guerre qui concerne carrément le Vietnam. De Michael Cimino, avant qu'il fasse sa grosse bourbe Les Portes du Paradis. En 1978, avec De Niro, Christopher Walken, un rôle qui l'a marqué. Ben, en fait, il l'a marqué au cinéma surtout. Parce qu'il jouait un homme qui s'est fait. Ben, en fait, De Niro, toute sa gang s'est fait pogner au Vietnam. Et les Vietnamiens, pour les torturer, ils faisaient jouer la roulette russe.
Mm.
Et c'est pas le fun, la roulette russe. En tout cas, le film était intéressant pour ça. Walken, son personnage, ça l'a marqué un petit peu, puis il faisait ça encore à la maison. Quand il est revenu.
Okay.
Il avait besoin de cette dose-là. Il était un peu dérangé. Là.
D'accord.
C'est une sorte de Rambo, mettons. C'est un retour à la maison, mais en moins tumultueux, mettons. Okay. Plus psychologique. Mais moi, mes tops sont assez psychologiques. Tu sais, c'est des films. Là. The film. Là, j'ai quand même quelques petits apartés comiques, là. Quand même. Mais généralement, c'est des films. Des films, là. Tu sais, la crème, là. T'sais. Ouh! Voilà. Ouh! Je trippe. OK. Prochain. One Flew Over the Cuckoo's Nest.
Bien sûr.
Vol au-dessus d'un nid de coucou. En 1975, réalisé par Milos Forman, qui était son deuxième film américain, parce qu'il n'a réalisé d'autres auparavant dans son pays, qui a raflé tout aux Oscars. Mm-hmm. Meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur film. Ce qui est rare, maintenant, de nos jours. Ben, que dire de plus?
Avec Jack.
Jack.
Nicholson.
Demain. D'ailleurs, sa fête vient de passer dernièrement, le 22 avril, 23 avril. D'ailleurs, j'ai fait un petit hommage sur ma page Facebook pour Jack avec 3-4 petites références là, sur des films.
Danny DeVito?
Oui, ben, il y avait des petits rôles. Christopher Lloyd avait un petit rôle aussi.
Oui.
Il y avait Brad Dourif qui avait un petit rôle. L'Indien qui avait un rôle. C'est tout. Puis, le nom, là, honte sur moi, je me rappelle pas du nom de la comédienne. Ellen Fletcher.
Mademoiselle Ratchet.
Exact. Excellent film qui, tu sais, qui piochait sur la société américaine.
Ouais.
Via un hôpital psychiatrique. C'était solide, là. C'était... En fait, c'est rien que solide. Sûrement que solide, vous allez l'entendre souvent. Mais c'était fort. Fort. Bon. Prochain. C'est pas une surprise que je vous donne, là, en fait. Là. J'en parle tellement souvent dans les émissions. Ça fait 100 émissions là, qu'on fait. 99. Puis j'en parle souvent. Genre, je fais référence à ces films-là. Puis celui-là, c'est moi. Ça me représente. C'est mon film. Apocalypse Now.
Je le savais.
1979. Francis Ford Coppola. Le titre Voyage au bout de l'enfer ferait...
Correspondrait mieux.
Correspondrait mieux à ce Apocalypse Now qu'à The Deer Hunter. Bon, c'est pas grave, là. C'est même pas un bémol ou un petit accrochage. Apocalypse Now, le nom, le... Tu sais, le titre, là, est approprié, là.
Je ne l'ai pas vu. Il est sans voix.
Ouais, mais faut pas que tu fasses des affaires de même pendant qu'on enregistre, là. C'est pas correct, là. T'es pas sérieux, là?
Mais là, à un moment donné, il y a bien trop d'affaires à voir.
Mais oui, mais... je arrache ta face. Je arrache ta face. Oh. Tu sais, quand on s'arrache la face, quand on a pas... Poltergeist, le gars, il devant son miroir, là, en train de... Oh! Maudit. T'as pas vu ça?
Mais non.
Mais moi, y'en a non! Oh. J'ai plus du souffle. Je ventile, j'ai pas un ventile, là. Bon, en tout cas, bon. Fait que... Il m'a frappé.
Ben là, j'ai vu Taxi Driver ce soir, tu sais.
Oui, bon, au moins. OK, bon, c'est bon. OK, bon. Taxi Driver, t'es bien. Il est là, je le nomme tout de suite. Taxi Driver. Qu'est-ce que t'en penses?
C'est bien, c'est très bien.
Il est sur ma liste, là. Il est là, là.
Il est comme bon, je disais tantôt, ma scène préférée, c'est quand De Niro se pratique avec son fusil devant le miroir.
Oui, c'est une scène, ça, c'est... Préférentiel.
Ouais.
C'est quoi, non? You're talking to me? Are you talking to me? Il est fou là-dedans. Ah oh, non, mais De Niro là-dedans, il était. J'allais dire solide, je suis allé le dire solide. Mais il était dérangé, là.
Ouais.
Il était investi, là.
Ouais.
Puis ce que j'ai aimé de ce film-là aussi, c'est que Scorsese a réussi à faire de la ville de New York un personnage en soi, là.
Mm-hmm.
Pas juste, pas s'attarder juste sur les junkies ou sur les politiciens ou sur les passants. La ville respire, elle vit. Puis elle est sale, puis elle est dure. Puis on sait que De Niro là, est oppressé là, par la ville.
73.
1913.
Le film.
1916. 76.
Ah oui?
Oui, 76. 1976 de Scorsese. Fait que Taxi Driver fait partie de ma liste.
Mais par contre... As-tu autre chose à dire sur Apocalypse Now?
Ben, Apocalypse Now, j'en ai tellement parlé. Que dire? Ben moi, Apocalypse Now, c'est ce que j'ai aimé d'Apocalypse Now, c'est que ça transcende le film. C'est plus qu'un film, c'est un événement. Okay. Un événement filmé.
Okay.
Tu sais, on sent tout le travail. D'ailleurs, si vous avez vu le... C'est quoi, donc, The Art of Darkness, je pense, dans le cœur des ténèbres, je crois, c'est ça le titre, un documentaire sur le film. Où on voit, tu sais, tous les obstacles que Coppola a dû subir. Ce film-là est un apocalypse en soi.
Ok, je savais ça, qu'il a commencé à faire dépression, puis il est comme lâché un peu.
Oui, il y a eu beaucoup de problèmes par la suite. Mais il s'est investi beaucoup financièrement dans ce film-là, à cause des comédiens, entre autres, puis des mauvaises conditions de tournage. Puis d'ailleurs, Martin Sheen, ils ont dû arrêter le film. Henry Keitel, à la base, c'était supposé être lui. Il y a eu de la misère. Chut, il a flyé. Martin Sheen a pris la place. Il a fait un infarctus. Ils ont dû arrêter la production. Ils ont gardé, ils ont attendu, ils sont revenus. Puis, les scènes que vous voyez, là, c'est des scènes. C'est des one-shots, là.
OK.
Tu sais, quand le gars Sheen est dans sa chambre d'hôtel, ou des hôtels, tu l'as pas vu. Dans sa chambre d'hôtel au début. Puis on voit le fan qui tourne, puis là, il sent mal, puis il file pas, puis il est saoul, puis il sait pas quoi foutre de sa vie, puis il se pète la tête sur le miroir, puis il pète le miroir, puis il pisse le sang. Ben, c'est son sang. Il pisse le sang, il vient de se péter. Coppola est derrière la caméra, puis il dit oh, on tourne, on continue. Ah oui. Puis là, Shin est en avant, puis il est complètement dérangé, puis il sait pas ce qu'il veut, puis il garde son personnage, mais il est un peu lui-même en même temps. Même chose pour Brando. Brando, c'est pratiquement de l'improvisation. La plupart des scènes qu'il va faire, là, c'est pratiquement de l'improvisation. Ce film-là, là, c'est un chef-d'œuvre. Parce que Coppola a réussi à faire de quoi? À partir de tout et rien. C'est sûr qu'il y avait un canevas, il y avait un synopsis. Il y a des gros comédiens, là. À part Brando et Sheen, il y a Robert Duvall qui joue un rôle, le colonel. Là. Il est excellent, ce colonel-là. Où on connaît toute la réplique où il dit... qu'est-ce qu'il dit, donc... est-ce que l'odeur... Est-ce que vous sentez l'odeur? L'odeur du napalm? Il vient de raser une forêt, là. Il vient de raser pas mal de kilomètres de bois puis de Vietcom. C'est l'odeur de la victoire. Puis la valse des Valkyries avec les hélicoptères qui... Ah! C'est beau, genre, bah oui. C'est pas drôle, là? Ben, elle est pas là, je braille pas là, là. Mais quand je regarde ça, là, tu sais, je suis ému. Ému! Ce film-là est venu me chercher. C'est une raison pourquoi j'aime le cinéma.
C'est ce qu'on voulait entendre de ton film. Okay. Next.
Next. Alors, là, tantôt, je parlais de... J'ai des apartés. Généralement, c'est des films. C'est psychologique, académique, lourd. Mais j'ai quand même un petit côté frivole. Et ce côté frivole passe par Blazing Saddles. En français, oublie ça, je ne sais pas c'est quoi. Le shérif est en prison, je pense. Le Mel Brooks. Un de ses meilleurs films, selon moi, là, qui pastiche la comédie, qui pastiche le country, le western, en fait. Qui se rit du cinéma en soi. Mel Brooks, tu sais, la bonne vieille humour. Là.
Ouais.
Grosse. Ben, pas nécessairement grosse en dessous de la ceinture, parce qu'il est quand même assez...
Ouais.
Il est pas en bas de la ceinture, bro. C'est ça qui est le fun.
Tiens proche, mais...
Ça... Ouais, mais il est encore... c'est ça. Il... Politiquement correct. C'est sorti en 74.
Mais on l'emmène dans la circulation, d'un coup.
Ouais, c'est pas grave, on aime ça. Il y a de la vie. Il y a de la vie. Mais j'ai fait un duo, encore.
Ah, ben, call.
J'ai fait un duo comédie. Puis, vous pouvez pas penser à côté de celle-là, parce que c'est un humour absurde, complètement absurde. Un humour anglais, mais pas l'humour à la Mr. Bean.
Non.
Que j'aime pas vraiment, là. Excuse-moi, Brigitte.
Brigitte du ballet?
Brigitte du ballet. Moi, l'humour que j'aime, c'est les Monty Pythons. J'aime beaucoup leur humour. Terry Gilliam, qui vient de là. Évidemment.
Je sais pas de quoi tu parles, vraiment.
Monty Python, c'est The Holy Grail. Et le Sacré Graal. Ça te dit rien?
Non.
Je l'ai à la maison. Ça vaut la peine d'être vu. C'est tellement innocent. Fait que ça se passe, évidemment, pendant la période médiévale, où les chevaliers de la Table Ronde doivent trouver le Graal.
OK.
Et c'est ça, c'est la quête du Graal. Mais à la sauce Monty Pythons. Fait qu'à un moment donné, une scène comme ça parmi tant d'autres, où les chevaliers s'approchent d'une grotte où ils pensent que peut-être le Graal est dedans, mais ils peuvent pas s'approcher, il y a des méchants lapins féroces.
Des méchants lapins féroces.
Ils sont tellement en poche, les lettres, ils ont pas de budget. C'est une sorte de petite motte blanche là, qui se promène. La 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 la. Ah, il a l'air bien tranquille, ce lapin-là. Il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de grave. On s'approche. Puis là, tu vois le lapin qui se vire. Puis là, gros plat sur le lapin. Puis là, ils font bouger le lapin comme il était vilain, mais le lapin. Zzz, il bouge un petit peu. Puis là, tu vois un gros plat, quasiment qui se bat en dessous du lapin. Il saute dans les airs, sur le gars. Puis le gars, ben, pour faire à croire qu'il se fait attaquer par le lapin, il tient le lapin.
Ben oui.
Il tient le lapin au niveau de la gorge. Puis là, ça pisse le sang. C'est le même, là c'est l'attaque des lapins. Là. Les chevaliers se font attaquer par des lapins.
D'accord.
Puis ça, c'est rien, c'en est une là, dans la gang. Là. C'est tellement niaiseux, ça n'a pas de bon sens. J'en ai ri, j'en pissais. Fait que ça, c'est mon duo comédie. Le shérif est en prison, de Mel Brooks, et Monty Pythons, réalisé par Terry Gilliam et Terry Jones, qui font partie des Monty Pythons. C'est Monty Pythons qui est sorti en 75, celle-là. Alors, l'autre film, un incontournable. Star Wars.
Oui. New Hope.
A New Hope. Épisode numéro 4. Réalisé le seul. Ben, en fait, bon, pas le seul, parce que George Lucas, avec sa nouvelle version, il en a fait d'autres. Mais le seul de l'ancienne version, l'ancienne trilogie, réalisé par George Lucas.
Oui.
Sorti en 77.
Oui.
Ben, que dire de plus? On les connaît toutes. On sait toutes. C'est référentiel, oui, aussi. C'est le film de science-fiction par excellence. Là. Ou qui fait un bon mélange aussi un peu avec... comment je trouve ça le nom? Les épopées western, un peu.
Ouais, ben c'est dans le fond. En gros... Ils vont aller sauver une princesse prisonnière d'un château, si on veut.
Ouais.
Moderne.
C'est un mélange médiéval. C'est ça. Science-fiction médiévale.
Épée de lumière au lieu d'une épée normale.
Ça, j'ai toujours. Ça, je m'en cache pas. J'ai souvent dit par le passé. J'ai toujours trouvé que Star Wars faisait beaucoup référence au Seigneur des Anneaux.
Ben, c'est vrai aussi. George Lucas s'en est inspiré un peu.
Moi, je trouve. En tout cas, moi, j'ai toujours pensé, là.
À cause de la force, le pouvoir de la force du côté obscur, qui vient avec l'anneau, justement.
Mais ça n'enlève rien au film, là.
Non.
Là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, il m'en reste 2, mais j'ai des bonnes notes, c'est sûr.
Oui.
Mais mes deux officiels, top 70, mes deux derniers, Dog Day Afternoon, un après-midi de chien, réalisé par Sidney Lumet, 1975. Avec le Al Pacino.
Mm-hmm.
Al Pacino, d'ailleurs, qui était dans The Godfather, qui est, pour moi, un des comédiens... Un des... Ah, même pas... Comédien, j'aime pas ça. Acteur.
Ouais.
Un acteur comme De Niro, tu sais. Une clique à part. Si tu parles d'acteur, tu dis De Niro, tu dis Pacino, tu dis Dustin Hoffman. Tu dis...
Brando, non?
Brando, oui, c'est sûr. Là, c'est sûr que si on veut, là, on va trouver d'autres. Mais, tu sais, des vrais acteurs. Dog Day Afternoon, qui se passe en une journée. Ben, en fait, ça se dit, là, c'est un après-midi de chien. Ou c'est un vol de banque qui tourne mal. Puis, ben, c'est une prise d'otage. C'est tout. Toute la tension, tu sens toute la pression, la police qui est là. Puis, Pacino qui est comme dépassé par les événements, mais qui garde son sang-froid. Puis, je sais pas si c'est son frère ou son chum. Qui était avec lui, qui est un peu plus, mettons, fragile, qui était joué par... comment il s'appelle, non, lui? Alors, excusez, j'ai tapé sa porte.
Là, la prochaine fois que t'as des blancs comme ça, là,
oui.
Je mets des mouches.
Des mouches?
Ouais.
Bzzz.
Ouais, puis sont fatigantes.
Ah, là, ça, c'est
un stéréo.
Ouais, maudit.
Mais à l'avenir, tu vas faire tes devoirs.
Mais le comédien, il joue... D'ailleurs, ils ont joué ensemble souvent, parce qu'ils ont joué dans le Parrain 1. Et dans le Parrain 1, il est bien dans le Parrain 1. Il est bien dans le Parrain 2. En tout cas, pas grave. Peu importe, en tout cas, Dog Day Afternoon, qui est un film d'acteur,
ouais.
À la base, et un film de texte. Parce qu'il se passait rien. C'est une prise d'otage, c'est tranquille. Là. Les méchants d'abord, la police de l'autre, puis on se parle. Mais c'est ça que j'ai aimé là, du film. Lumet, qui d'ailleurs continue encore à faire des films malgré tout, qui est un âge vénérable, peut-être, ou 80 ans en montant. Là. Il fait encore d'excellents films. Et mon dernier, et non le moindre, All the President's Men. En français, c'est Les Hommes du Président, qui fait référence carrément à l'affaire du Watergate. Le film est sorti en 1976, puis c'était une claque sur la gueule de le gouvernement Nixon. On connaît tous l'histoire du Watergate. Mais All the President's Men de Alan J. Pakula, le réalisateur, ça c'est vraiment l'enquête de deux journalistes du Washington Post. C'est vraiment les journalistes ben, joués par De Niro, Robert Redford et Dustin Hoffman. On voit l'enquête. Toute l'histoire qu'ils ont réussi à amener jusqu'au Watergate. Puis c'est un excellent drame policier, là. En plus d'être politique. Fait que ça c'est sorti en 1976. Mes bonnes notes, maintenant.
Oui, est-ce qu'on attend la fin pour les bonnes notes?
Ah, ok, oui, ok. Moi aussi, il me semble.
Bref, vous allez savoir mon top après la pause.
Vous croyez en la vie après la mort, les fantômes, les cas de possession. Alors écoutez, Freakance, l'émission où les morts vous parlent. Au www.freakance.com.
Yeah! C'est maintenant mon tour pour mon top décennie 70.
Je suis pas dans la pause, j'essaie de trouver ces films.
Alors, comme...
Oh, puis en plus, il l'a mis à l'envers pour pas que je le voie.
Ah oui.
Ah oh, ben le maudit.
Alors, comme d'habitude, moi, j'y vais en ordre décroissant. Ça veut dire que je commence par, mettons, 79.
Donc, chronologie. OK, OK. Ouais. OK.
Fait que, j'y vais, je me lance.
Vas-y, ouais, je suis prêt. On est tous prêts.
Mon premier. Star Trek The Motion Picture, 1979, réalisé par Robert Wise.
Qui était un de ses derniers films,
d'ailleurs. Ouais, parce qu'il était vieux quand même.
Oh oui, gens. Il a fait des bons films, ben, dans ce cas-là.
Alors, je l'ai mis parce que, ben, je n'ai parlé un petit peu dans l'émission de années 80. C'est un des premiers films que j'ai vu au cinéma. Je l'ai pas vu quand il est sorti, mais je l'ai vu peut-être un an après, au ciné-jeunesse, là, au cinéma de Thetford, qui présentait des films l'après-midi. Et, ben, c'était quelque chose parce que c'était comme l'adaptation de la série au cinéma. Mm. Et l'épisode...
C'était quand même 10 ans après, là.
Ouais, 10 ans après. Mm. Et l'épisode, c'était vraiment la suite de la série. L'équipage se réunissait pour une nouvelle mission. Et l'Enterprise était redesignée un peu. D'ailleurs, oui, j'avoue, c'est ma version préférée de l'Enterprise. Toute version
on parle du vaisseau, là.
Ouais. Okay.
Et, les costumes étaient lettres.
Ouais, ça a été la lacune. Sens. Mais ça s'est corrigé dans le 2, là. Mais dans le 1, oui. C'est vrai que ça avait l'air des pyjamas.
Des gros pyjamas combien lettres.
Anecdote. Supposément que Spock n'était pas inclus dans le scénario au départ.
Hein?
Tout le monde s'est regardé, puis en fait, mais là, ça n'a pas de bon sens.
Ben,
ça prend Spock, là. C'est comme Ellie l'avait dit dans l'émission spéciale de Star Trek, Spock, c'est la pierre angulaire de tout ça, là, quasiment.
Mais c'est lui qui regroupe le... Je sais pas, c'est comme lui le cœur, on dirait.
Ouais, pas drôle, exactement. Là. Ben, si on s'en rend compte...
C'est drôle de dire que c'est le cœur, parce que c'est la raison.
Ouais. The Motion Picture, évidemment... Ça fait changement, là. La maquette du vaisseau, là, on part d'un modèle réduit de même pas un pied de long à quelque chose qui pense qu'il faisait 11 pieds de long.
Pardon, toi.
Ben, tu vois ma table de cuisine? Ceux qui ont des tables de cuisine rondes, là, bon, c'est à peu près la grosseur de la soucoupe, ça. Fait qu'imaginez avec tout, là.
Ben, il y avait du détail aussi, là.
Oui. C'est ça. Très bonne direction photo. des plans larges, là, on vivait quelque chose.
Mais ça, je sais, Star Trek, quand il est sorti, ça a été le film le plus cher à produire
oui.
À l'époque.
C'était de la science-fiction pure. Des décors incroyables. Avec l'intrus, en fait, qui était Voyager. La fameuse sonde qui était Voyager 5, je pense.
Oui. Ben là, honnêtement, je ne sais pas si c'est loin.
Ouais. Mais c'est ça. On ressentait toute la chimie qu'il y avait entre les principaux acteurs. Puis c'était un moment intéressant.
C'était des retrouvailles aussi quand tu
y penses. Oui, ben oui.
C'était quand même 10 ans plus tard, il s'est rien passé entre-temps.
D'ailleurs, dans les bonus, Chekhov, quand que Kirk arrive sur la passerelle la première fois, il dit que dans sa tête, il s'est dit, c'est vrai. C'est le retour, c'est vrai. comme je l'avais dit, parce que dans 80, je disais que un de mes films, c'était Star Trek 2.
Ouais.
Puis celui-là, ben il était très tranquille. Donc, quand je l'ai vu, j'étais quand même jeune. J'avais peut-être 8-9 ans. Mais avec le temps, je l'ai apprécié. Tu sais, quand il était un vrai fan de Star Trek, là, c'est un des bons. C'est un des bons. Oh!
Je l'ai vu!
Eh oui!
Ben oui, ça, je savais que ce serait là.
Je l'ai dit souvent, mais là, je le dis là, parce que c'est vraiment le moment de le dire. Superman de Movie, 1978. J'avais 6 ans et c'est le premier film que j'ai vu au cinéma de ma vie. Puis, comme j'avais. Ben, je l'ai peut-être un petit peu parlé dans 80 parce que j'ai parlé de Superman 2. Les deux, je les ai avec ma mère. C'est les deux seuls films que je suis allé au cinéma avec ma mère. Puis, entre les deux, j'avais commencé à aller au cinéma ciné-jeunesse. Bon. Ben, Superman the Movie. Première chose à dire, Christopher Reeve s'est fait payer 225 000 $ et Marlon Brando s'est fait payer 4 millions.
Ah oui, ça n'a pas de bon sens.
10 minutes.
Ah ouais, c'est une crosse monumentale. C'est fou.
Mais bon, hein, il a fait la job, Marlon Brando, dans le père de Jor-El.
Oh oui.
Qu'est-ce que j'ai dit là, dans le père de Jor-El?
Ben, c'est ça. Dans le rôle. Le rôle de Jor-El, là, il était efficace, là. C'est quand même Brando.
Oui. Mais comme j'ai
C'est Richard Donner, ça, là. Hein?
Oui, Richard Donner, ouais. Qui était censé avoir le contrôle de faire deux films.
Ben, qui l'a fait.
Ben, il a commencé. Mais je me souviens pas exactement, une dépression ou quelque chose. C'était trop gros. C'est 3 ans et demi de préparation juste pour faire le 1.
Ben, c'est, si je me trompe pas, c'est quand même un des premiers super-héros qui va avoir sa carte de visite au cinéma.
Exactement.
Puis en a fait ça gros. Là.
D'ailleurs,
ça a pris du temps avec qu'ils trouvent leur Superman aussi. Là.
D'ailleurs, une des phrases slogan de toute la promotion avant que le film sorte, c'était « Est-ce qu'un homme peut vraiment voler? » Puis, ben, c'était bien fait pour l'époque. Hein.
Oui.
Surtout les scènes où que, il n'y a pas de superposition. Là. Il est avec des fils, mais les fils sont effacés. Donc, il atterrit direct dans le décor, puis c'est bien fait. Hein.
Oui, ben, il est sur une poutre, je pense, peux-tu?
Oui.
En tout cas. On se débrouillait avec son nom à l'époque. Hein?
Et comme je disais, moi, c'est un souvenir aussi d'odeur. Parce que ma mère m'achetait les paquets de gomme avec les cartes de collection du film. Comme les cartes d'hockey, d'ailleurs.
Ouais.
Fait que la gomme ballon va avec ça.
La petite gomme sec qui se casse dans la bouche, qui pète le palais. Là.
Parce que là, on est des années 70. Tu vois un film au cinéma, tu ne le revois pas avant une couple d'années. Avant
3-7 ans.
Fait que tout ce que j'ai, c'est mes cartes de collection. Et le fameux jouet, là, Viewmaster 3D. Une espèce de roulette que tu rentres dans une paire de jumelles.
Oui.
Fait que j'avais ça aussi.
Ah oui, tu tournes avec une sorte de petite clanche.
Ouais.
C'est la lumière du jour qui fait que ça marche.
Fait que j'avais ma gomme, mes cartes, ça. Jusqu'à ce que la première fois qu'il passe à la TV américaine, puis que je puisse l'enregistrer sur mon enregistreuse.
Toi, tu les poses?
Ouais.
À côté de la TV, il y a une pause. Oh!
Ouais. C'est une autre époque. Hein?
Ah oui, c'est le bon temps.
Ouais, fait que. Évidemment,
Superman.
C'est sûr que c'est.
78.
Ouais.
Mais là, toi, t'as l'air d'y aller avec tes tripes, toi, là. Hein? Ça se peut-tu?
Mes tripes et mes. En tout cas, vous allez voir.
Ok, ouais, encore deux. Ok.
Close Encounters of the Third Kind. 1977 de Steven Spielberg. Mm. Avec Richard Dreyfuss, François Truffaut, Feu.
Oui, malheureusement.
Terry Garr, Melinda Dylan, puis malheureusement, le petit gars, j'ai pas eu le temps de fouiller assez pour voir son nom. Je
m'en rappelle pas non plus.
Le petit gars du film, qui a une bête incroyable. Puis ce qui est spécial aussi, c'est la façon dont Spielberg l'a dirigé pour obtenir ce qu'il veut.
Ben, il était chiant, en fait, tu veux dire?
Ben non, c'était le fun.
C'est le fun.
Ben oui, c'est le fun. Il n'a pas eu peur, le petit gars. Hein.
Ben, en tout cas.
C'est que, entre autres, une des scènes où, que, supposément, il y a un extraterrestre qui rentre, ou des extraterrestres qui rentrent dans la maison un soir, comme ça.
Mm-hmm.
Le petit gars se réveille, puis il avance dans la cuisine. Nous, on voit rien. On voit pas les extraterrestres. On voit juste le petit gars,
mm-hmm.
ses réactions. Alors, ce qu'il a fait, Spielberg, c'est que le petit gars n'est pas au courant de rien. Il dit juste, viens-t'en dans la cuisine. Alors, quand il arrive dans la cuisine, il voit quelqu'un déguisé en singe, fouillé dans une poubelle, je sais pas trop. Puis un autre déguisé en clown, là, qui regarde dans le frigidaire. Puis... le petit gars, il a comme un visage intrigué. Et tranquillement, progressivement, il a comme un sourire en coin. Puis il y a l'émerveillement. Ça vaut de l'or. Ça. Il n'aurait jamais réussi à faire ça. Puis une autre scène aussi, où là, c'est la mère avec le petit gars qui sont... vraiment collé, là, parce que les extraterrestres arrivent. Là,
ouais.
Le tout shake, le poil le saute, les stars, les grosses lumières. Et encore une fois, il ne savait pas qu'est-ce qui se vivrait. Là. Spielberg a dit à la mère, au petit gars.
Même chose pour l'actrice, là. C'est Dylan, je pense.
Ouais. Il dit, t'as juste à réagir, qu'est-ce qu'on va faire? Puis elle était assez petite dans ses culottes. Ça brassait.
Ah ouais, le film était bon, là.
T'as même une scène où ce que. Tu sais, il y a les portes avec la trappe que le chien sort. Là.
Mm-hmm.
Bon, mais le petit gars était comme attiré par un extraterrestre qui l'agrippait. Puis tout le monde devait dire que ça devait être assez traumatisant pour le petit gars. T'sais. Mais en réalité, c'est sa vraie mère qui l'attendait l'autre bord de la porte. Puis on voit même sa main à un moment donné, en tout cas.
Tu vois, on voit sa main.
Oui, mais nous, on pense pas que c'est une main de.
Ouais. Ok.
C'est très... parce que moi, j'ai la version 30e anniversaire avec les trois versions. Les
bonus, puis tout.
Version originale, Director's Cut, édition spéciale. Je ne suis pas commandeur de bonus. Très intéressant. Quand j'ai vu Jeune à TV, pour un jeune...
C'est un film d'adulte. Ça.
C'est long. Ouais. Pis, plus tard, je l'apprécie énormément.
Tu sais, voir un gars qui fait une montagne avec des patates, là, ouais. c'est plate. Là,
d'ailleurs, j'étais content d'apprendre que la Devil's Tower existe pour vrai.
Oui, ben oui.
Moi, je pensais que, vu que justement, ils ont pris la peine de faire une maquette, parce que le gars, il faisait des maquettes de train, je pense, qu'il l'avait juste inventé. Mais non, ça existe pour vrai, c'est dans le Wyoming.
Puis supposément que ça serait une vraie place atterrissage d'extraterrestres.
Ah, là, tu me l'apprends.
C'est pour ça qu'ils ont décidé de faire ça là.
OK. Tu me l'apprends. Mais bref, on veut même aller la voir presque en direct avec Google Street.
Oui.
On peut pas s'approcher énormément, là, mais...
Non, c'est Restricted Area.
Oh, oh!
Oh, oh, oh! Fait qu'en 1977, la rencontre du troisième cycle. Ouais. Bon. Mais évidemment, oui.
Et oui, moi aussi, j'avais Star Wars A New Hope.
Et, même période, même année.
Et moi, qu'est-ce qui arrive avec ce film-là? C'est que c'est le premier film que notre VHS a enregistré. En 84, quand il a passé à TV pour la première fois en français à Radio-Canada.
On achète un vidéo juste pour ce film-là. Chérie, le film passe à TV, achète un vidéo.
Mais ce n'est pas la première chose qu'il a enregistré, par contre.
Ah, OK, des émissions avant.
Oui, ma mère a voulu enregistrer la visite du pape.
Okay, la poule aux œufs d'or.
Non, juste le pape. Car c'est en 84 qu'il est venu.
Ah oui, c'est Céline Dion. Il nous chante La Colombe.
Ouais.
La Colombe est partie en voyage.
Star Wars A New Hope, moi, jusqu'à ce que j'ai à dire, c'est que à ce moment-là, même avec l'Empire contre-attaque puis le Retour du Jedi, Lucas et son équipe étaient toujours avant-gardistes sur les effets spéciaux. Jusqu'à ce qu'il y ait tout l'éclat de l'infographie, là, disons à partir de 93. Mais sinon, il était toujours en avant-garde là-dessus. Et comme dans les bonus que j'ai déjà écouté à un moment donné, c'est vrai que c'était impressionnant. La première image, t'as un croiseur qui te passe au-dessus de la caméra. Là, ça finit plus d'avancer, ce vaisseau-là. Tu sais?
C'est ça.
Ouais. On est loin des petites séries cheap perdues dans l'espace. Là. C'est,
ouais, oui.
C'est quelque chose.
Mais ça, pour faire son film Star Wars, George Lucas, il a demandé de l'aide à son chum Spielberg.
Oui.
Justement, qui faisait pendant ce temps-là son film
Rencontre
du troisième cycle.
Ouais. D'ailleurs, il y a des clins d'œil. Hein. Sur le vaisseau à la rencontre du troisième type, R2-D2, il est collé à quelque part. Je l'ai vu, là, j'ai mis pause.
Tu pourrais le checker comme du monde, là, il est où?
ouais, c'est ça. Fait que les deux, c'est ça.
Mutuellement, ils seront aidés. Ben, de toute façon, c'est des chums. Là.
C'est ça.
C'est grâce à ça qu'on a Indiana Jones. Là,
aussi. Et petite anecdote. Une chance que ce n'est pas arrivé. Là. Mais Lucas avait envie, peut-être, pour la musique, que ce soit du disco. Parce qu'on était à l'époque du disco.
Ouais, ouais, ouais.
Tous ceux qui se rappellent la fameuse série...
Entendre des Bee Gees en même temps. Oublie ça.
Mais moi, ce qui me passe par la tête en science-fiction, là, c'est la série Cosmos 1999.
Mm.
C'était du disco comme... Fait que non, bonne idée d'avoir choisi de la musique...
Ben, c'est, en fait, c'est Spielberg qui a référé John Williams.
Ah, c'est bon.
Le gars, il dit, hey, j'en ai un, là, il est super bon. Cool. Je travaille avec lui, c'est un chum. Oh, ok, moi prendre. Ça a donné ce que ça a donné, hein?
Mm-hmm.
Cool. Ok. Oh ouais. Oh ouais.
Carrie de okay. Brian De Palma.
Ben oui, De Palma qui est bon. Qui était un émule de. Ben, sûrement tu voulais dire. Malheureusement, peut-être que je te vole les mots de la bouche. Qui est un émule de Alfred Hitchcock.
Tout le monde, oui.
Tout le monde disait que c'est le nouveau Alfred Hitchcock. Puis c'est vrai, là. Techniquement, là, de par moi, là, il est bon. Là. Même avec Carrie. Là. En tout cas, je laisse aller, vas-y.
Évidemment, adaptation de roman de Stephen King.
Oh,
avec Sissy Spacek. Pepper Lorre qui fait la mère de Carrie. Moi, c'est surtout elle qui me marquait. Surtout en anglais. Là. Elle a un accent. Peut-être un peu britannique, je sais pas. Là. Puis, c'est elle qui est fréquente, surtout, je trouve.
Ben, elle est assez oppressante.
Oui. Et pour la première fois à l'écran, John Travolta.
Oui.
Il était jeune.
Un petit rôle, oui. Hein? Il était jeune, oui. Grease, il n'est pas encore là. Hein?
Donc, Carrie, hein, l'histoire d'une adolescente avec des pouvoirs télékinésiques qu'elle ne contrôle pas super bien.
Ben, ce qui était bien avec Carrie, ben, en fait, avec Stephen King, c'est tout. Comme l'adolescence. Tu sais, la recherche de soi, puis on veut une identité. Puis Carrie, joué par Spacek, justement, jouer là-dessus, en plus d'être fantastique. Mm. Un film fantastique.
Ouais, ça, c'est plus fantastique qu'horreur aussi.
Ouais, ouais, bah oui. Puis, quand on, la fameuse image où on la voit plein de sang, là, c'est pas dégueulasse. C'est juste poche. Mm. Une joke poche.
Du sang de porc ouais, dans l'histoire, puis en réalité, ben, c'est du sirop.
Ouais, ben là.
Comme nous, on nous le spécifie dans Scream.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et ah, oui. Toi aussi. Ben oui, c'est sûr.
Va l'autre donner le coucou, évidemment.
Ça fait pas longtemps que t'as vu ça, ça fait bizarre.
Ben, 2-3 ans.
Ouais, ça fait pas longtemps.
Ben, j'ai rien à dire, j'ai dit tantôt.
C'est ça, je te félicite.
Oh. Jaws.
Oh, je l'ai haï. Ben, haï, tu sais, c'est un amour-haine, relation. Oh.
D'accord. 1975. D'ailleurs, il y avait une anecdote. Leur CB, quand ils faisaient le tournage, à cause que le requin marchait pas, tout le monde dans sa plage, les touristes, tout ça, ils entendaient « Le requin marche pas. Le requin marche pas. » Là, c'est les touristes qui ont commencé à dire la même chose dans les CB. Fait que l'équipe de tournage entendait ça dans leur CB. « Le requin marche pas. » Ouais, ils ont eu pas mal de misère avec le requin.
Oui, pas mal.
Mais quand il a marché, ça a été un moment unique. C'est quand Roy Schneider, il lance des poissons à l'eau.
Ouais, pour la pêche.
Hein. Et là, il est surpris parce que le requin marche. Là. Il sort il sort la gueule de l'eau. Et là, il recule de quelques pas dans la cabine. Et là, il improvise une phrase qui restera toujours. Ça nous prendrait un plus gros bateau.
Oui, elle est bonne, cette phrase-là.
Ouais.
Et puis, il reste vraiment surpris. Là.
Ah oui. Fait que, ouais, Jaws, ben, moi je l'ai vu jeune quand même, pas 75, là, mais quand il est sorti à la TV. Là,
ben, il a dû sortir à 82-83 dans ce coin-là. Là,
ouais.
Au moins.
Mais c'est juste pour dire que les années 70-80, là, évidemment, pas de club vidéo encore, pas tout à fait, en tout cas pas dans les débuts. Fait que quand un film passait à la TV, c'est un événement. Là. À l'école primaire, là, le lundi suivant, ça parlait que de ça. Puis quand on savait que Jaws 2 arrivait, même chose.
Mais Jaws, c'est le premier blockbuster.
Ouais.
Officiellement, là, c'est le premier blockbuster. C'est sûr qu'il n'a pas fait une couple, 2-3 millions, pas plus, c'est pas beaucoup. Là. Il a fait quelques millions. Mais pour l'époque, c'est énorme.
Ouais.
Surtout pour un film d'horreur en plus, avec des no-names. Rush Hider, c'est pas un gros nom. Là. Ça attire personne, ça.
Mm.
Et Richard Dreyfuss non plus, il est pas connu. Là.
Dans une des scènes, il y a un vrai requin. Quand que justement Richard Dreyfuss descend dans une cage,
ouais.
Ils ont tourné des scènes avec des professionnels dans une cage avec un vrai requin. Puis, en fait, à un moment donné, ils ont mis un mannequin aussi d'un homme en plongée, hein, en tenue de plongée. Puis le requin, il essaye d'attaquer la cage, puis son museau respire, puis se tortille, puis en tout cas. Quand j'ai vu le bonus, moi, tant qu'à moi, j'ai regardé beaucoup plus longtemps parce que c'était vraiment intéressant, une prise. Hein. Mais on n'a pas embarqué beaucoup. Mais c'est ça. Dans une des séquences, c'est un vrai.
Ah ouais, il faudrait que je le revoie. Parce que moi, j'avoue que moi, j'ai pas une phobie, j'aime pas l'eau. C'est pas une phobie.
Moi hein. Non plus.
Fait que ce film-là, il m'a vraiment fait freaker. Là. Parce que tu sais pas, il est où le maudit. Là. Tu sais, c'est vaste, l'océan. Là.
Quand John Williams a fait les deux notes là,
ouais.
Au piano, Spielberg était pas sûr. C'est une joke. Non, écoute bien. Puis imagine l'orchestre, ça. Ah, ouais. Ouais. Finalement, c'est un classique. Hein, c'est...
Ben oui, c'est classique, c'est incontournable. T'entends ça, t'es sûr, tu sais de quoi on parle.
Ouais.
C'est sûr. Ben, Williams a fait des chefs-d'œuvre musicales. Les années 70, pour lui, là, ça a été prolifique.
Alors,
c'est vrai?
Ouais. J'aurais pu mettre Halloween, mais je me disais,
ouais.
Tant qu'à être donné 70, allons-y dans la vraie horreur. Parce que, bon.
Ouais, continuez-vous, je suis curieux, pourquoi? Ah, ouais.
Texas Chainsaw Massacre.
Dans ton top 10?
1974. Ben, c'est un coup de tête un peu, mais je pense que je l'ai revu l'année passée, puis je l'ai redécouvert, puis ouais, franchement. La réalisation, quand je l'ai revu, m'a étonné vraiment, là. À un moment donné, t'as une fille qui se balancine dehors. C'est une balançoire. La caméra fait un travelling, passe en dessous de la balançoire, jusqu'à la maison. Puis y a beaucoup
sans effet. Là.
Ouais, puis il y a beaucoup de travelling comme ça, super fluide. Là, mon il court après quelqu'un dans le bois. Là, puis...
Ce film-là, il faisait réel. Hein?
Ouais. C'est un des premiers films, je pense, américains, en couleur, gore. Il n'y en a pas eu beaucoup avant ça.
Gars, tu faisais vraiment à sec. Là,
ouais.
Où t'sais... on montrait ce qu'on avait à montrer.
Là. Ouais, ouais. Puis là, il faut peut-être éclaircir.
Ça, c'est une histoire vraie.
Ben, c'est ça. J'arrivais justement à ce point-là.
Ah bon.
Ce n'est pas vraiment une histoire vraie. C'est que ils se sont inspirés d'un personnage qui se faisait justement des masques de peau.
Mm-hmm.
Mais Hannibal Lecter est aussi inspiré du même personnage.
Ah, OK. Donc, Richard Harris, l'auteur de Silence
des Agneaux. Hein.
Ah ouais.
Donc, il n'y a pas eu de tueur en série au Texas avec une chaîne ça, puis des masques d'en face, puis manger son, du monde.
Là, ouais, Leatherface. Ouais. Ouais.
Fait que c'est à éclaircir.
Là. Fait que c'est ça, c'est apprendre et à laisser. On ouais. en prend et on en laisse. Là.
Ouais, fait que j'ai décidé de mettre lui parce que je pensais que tout le monde saurait que j'aurais aimé Halloween. Fait que j'ai dit, on
tout nous prend de cours, le mot. Mais c'était bon, je vois, parce que c'était un bon film. Tu sais, un film cru.
Ouais.
Ben ouais,
évidemment, L'Exorciste. Je l'ai vu jeune aussi.
Jeune? De vous, êtes jeune?
Ouais.
Ils ont empêché de voir Linda Blair de voir le film.
Ah oui.
Avec sa majorité.
Mais c'est pas l'âge que j'avais, mais je l'ai vu à TV. D'ailleurs, c'est spécial parce que Jaws et l'Exorciste, je l'ai vu avec la même cousine. Tu sais, on va en visite chez un oncle, puis ça donne qu'à la TV, le film passe.
Ben oui, c'est ça. Un petit film d'horreur ensemble, hein, chérie. Hein?
Ah oui.
Ma petite cousine, on va écouter un film d'horreur avant.
Ah oui.
À 8h du soir, à l'heure de grande écoute.
L'Exorciste, j'ai pas eu peur. Non?
T'as pas eu peur?
Non. D'ailleurs, j'étais là, il me semble que c'est long, on devrait se passer quelque chose.
Hein? Ouais. Là, tu fais référence à quand tu étais jeune?
Oui.
OK. C'était peu rare, ce film-là. Là.
Ben.
Toutes les références, tous les liens, tous les. Le sujet en soi, là, tu sais.
Évidemment, j'ai pas pu le voir au complet parce qu'il était trop tard, mais je l'ai vu un bon bout. Je pense que je l'ai vu, la tête qui tourne à ce moment-là.
Puis ça t'a rien fait.
Ben, je fais enfin, il se passe quelque chose.
Bon, elles ont fait. Ben, on dort.
Mais l'exercice, ben, Linda Blair, dans le fond, elle était même pas consciente de ce qu'elle faisait.
Non, je sais bien, mais ils l'ont empêché de le voir parce que.
Tu sais, la fameuse part du crucifix qu'elle se rend dans.
Ouais, ouais, c'est ça qu'elle. Ouais.
Bon, ben, elle, en réalité, elle rentrait ça dans une éponge avec du jus de fruits rouge.
Mm.
Puis elle savait pas ce qu'elle faisait. Elle savait pas dans quel but.
T'sais. Ben oui, on sait. Ben, j'espère. Ouais.
Parce qu'elle était pas vieille. Hein.
Ben non, elle était pas vieille. Il y avait. T'as quel âge elle avait, non? 10 ou 12 ans.
Puis j'avoue que les suites, c'est ça, ça.
Oui.
Peut-être le 3, là, mais non.
Encore là. Non, c'est ça, malheureusement. De toute façon, on n'avait pas besoin de suites.
Non, c'est ça.
Tu sais, à la base, le film en soi était un tout. Là.
Et quel maquillage pour le père Mérine.
Ah oui.
Dont le nom de l'acteur m'échappe. Là.
Max von Sydow.
Moi, là.
C'est un jeune Max von Sydow là-dedans. Là.
Ben, moi, j'étais sûr que c'était un vieux monsieur. Ah, non, longtemps, j'ai cru ça.
C'est une jeunesse. Hein. Ouais. Je savais pas pourquoi il a plus de rouge d'ailleurs.
C'est pour ça que dans le 2, je me demandais, hein, comment ils ont fait pour le rajeunir.
Bon, moi, ma scène de l'exorciste, c'est la scène de l'enregistrement où il fait noir.
Mm-hmm.
Puis il le remet à l'envers, puis là, t'entends les sons, puis les voix qui sortent de là. Puis... Crim, t'écoutes pas ça à 3h du matin dans le noir, là? Non, non, t'as pas de goût, là. T'as pas de goût de regarder dans le sofa, là, c'est quelque chose, là. Ah oui, descend.
Attends un petit peu, là.
On a fait le tour?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Il en reste un. Oh! Tu l'as mis, pour de vrai? Colin, ça t'a marqué?
Ben, c'était, comme j'ai dit, j'ai changé un peu des trucs. Je vais y aller avec les
séries. Y arrives-tu d'aujourd'hui, lui?
Non, lui? Non.
Pas lui?
Non. Westworld. 1973 de,
j'ai bon voyage.
De Michael Crichton avec Yul Brynner, Richard Benjamin et James Brolin. Alors, c'est l'époque de la femme bionique, l'homme de 6 millions. Là-dedans, c'est des robots humanoïdes parce que c'est un parc d'attractions futuriste où ce que trois mondes. Le monde du Far West, médiéval, puis l'autre que je me rappelle jamais.
Futile,
non? Non, autre chose, en tout cas. Je m'en fous. Parce que c'est le monde de l'Ouest qui est, dans le fond, la vedette. Et puis Yul Brynner, qui est un cowboy robot qui vire mal et qui attaque les touristes. Et puis, c'est ça, c'était spécial comme film. Les robots, justement, t'enlèvent la face, puis tu vois tous les circuits électroniques d'en face. Il y en avait de ce genre de robots-là, justement, dans certains épisodes de La Femme Bionique et de L'Homme de 6 millions, parce que j'étais un fan à l'époque. C'est ça. Genre de film que j'ai vu souvent le samedi après-midi, puis à Ciné-Quiz.
Ciné-Quiz.
Et au fameux Ciné-Jeunesse de Thetford que j'avais. D'ailleurs, il y a eu Future World un peu plus tard. Mais lui, je me rappelle pas vraiment. Fait que c'est ça pour celui-là. Et là, je suis plus sûr. J'ai-tu mis un... Ah oui, je n'ai mis un autre.
Tu as mis un 11e, t'as pas de doigt.
Il y en a 12, toi. Il y en a peut-être plus, même.
Non, non, moi, c'est des duos, moi. Moi, c'est un tout. C'est quoi ça?
Ah ah! Surprise!
Ben, c'est pour certains, c'est quoi ça?
J'ai retrouvé mon film.
Hein? Vas-y.
Birds of Prey, 1973. Réalisé par William H. Graham. Avec du monde que je connais pas.
Moi non plus. Je sais rien de ça.
David Jason, Ralph Meeker et Ellen Heldville. Pour ceux qui connaissent. Alors, c'est encore un film que j'ai vu à Ciné-Quiz puis dans ces époques-là. C'est un ex-militaire, pilote d'hélicoptère, qui travaille pour une station de radio. Donc, tu sais, il survole la ville de Salt Lake City pour le trafic. Là, Puis, les souvenirs sont vagues. Là. Mais à un moment donné, il intervient, je pense. T'sais. C'est un journaliste, mais il intervient pour...
Un accident, mettons.
Ouais. Puis tout ce que je me rappelle, en tout cas, ben, souvent, c'est ça. Il parle avec l'animatrice de la radio, puis on s'attache tranquillement au personnage, t'sais. Mais à la fin, il y a des terroristes, je pense, dans un autre hélicoptère. Et il y a du monde en danger au sol. Et donc, pour sauver ce monde-là, ils foncent dans l'autre hélicoptère. Et c'est ça que je voulais dire tantôt, que j'ai pas...
Tu pouvais pas te permettre de le dire, OK.
Parce que dans beaucoup de... Ben là, c'est pas un road movie, là, mais dans beaucoup de road movie, et dans beaucoup de films des années 70, le héros meurt à la fin. Oui. Comme ça, souvent en kamikaze, hein.
Ah, il meurt là.
Ouais. Le film finit avec ça.
Fait qu'il sort le monde en bas.
Ouais. Et ça, moi, j'étais jeune, je regardais ça.
Ça ne dit rien, ce film-là.
Ben, je...
T'as été marqué par le fait qu'il meurt à la fin, c'est ça?
Ouais, mais aussi parce que c'était cool, tu sais. C'est vraiment un hélicoptère. Puis le réalisateur, William H. Graham, juste avant, il en a réalisé un autre film d'hélicoptère avec de l'action aussi. Là. Mais c'est des prises, là, l'hélicoptère, une petite, là. À part en dessous des viaducs, là. Elle se promène à côté des chars quasiment, tu sais, quand il y a des scènes d'action intenses.
OK, la caméra est intégrée.
Ah oui, c'est... Fait que oui, pour un jeune, c'était impressionnant. Puis à cette heure, ça serait la curiosité de le revoir, parce que je me rappelle pas de grand-chose.
Ah oh, ouais, ben lui, ça ne dit rien pas tout, là.
Bon.
Hé, hey, Colin, c'est bien le fun, j'apprends des choses.
Je vais juste voir si je suis vraiment rendu dans mes... Ouais, ouais là, je suis rendu dans mes bonnes notes, rendu là.
OK, j'ai vu. Je l'ai vu. OK, on va aller une pause, je pense.
Oui!
On a besoin, je l'ai vu.
Cinécure Club Vidéo, fier commanditaire de Cinémascope, est situé au 840 rue Miron à Sainte-Foy. 418-682-3333. Pour le film qu'il vous faut.
Oui! Je viens de retour. Pour les bonnes notes de François.
Ouais.
Dans les années 70.
Il me passe à l'air parce que j'ai vu ce que son premier. Alors, mes bonnes notes. Mais évidemment, j'en ai plusieurs, bien sûr.
Ben là, on n'a pas le temps. Tranche.
Ben, oui. Ben, ma bonne note que je vais donner en premier, c'est The Rescuers de Walt Disney. Bernard et Bianca.
Oh, oui!
Pourquoi? Parce que c'est le premier film que je me souviens d'avoir vu au cinéma.
Dessin animé.
Oui, dessin animé avec deux petites souris, puis l'albatros, puis les crocodiles, puis c'est ça, la petite fille qui est pognée sur son bateau. C'est lui qui m'a plus frais, que si je recule le plus loin possible, là, c'est lui que je me souviens d'avoir vu au cinéma en premier. Puis il m'a marqué, puis je l'ai jamais revu depuis. Là.
Ben.
Jamais.
Je l'ai vu pour la première fois il y a 2 ans.
Hey, mon Dieu.
Et moi, je me rappelle à cause d'une chose. l'émission Le Monde Merveilleux de Disney à tous les samedis.
Ouais.
À la fin, ils nous montraient toujours deux bandes-annonces pendant 10 ans. Un film de Coccinelle, un des films de Coccinelle. Et ça. On voyait toujours la même maudite bande-annonce pendant 15 ans de temps. Hein. Le film, il devait même pas être en salle, évidemment. C'était rendu une vieillerie. Hein. Puis il nous montrait ça. Je l'avais jamais vu. Fait qu'il y a 3-4 ans, je l'ai vu pour la première fois. Puis ouais, c'était le fun.
C'était le fun? Ouais. Okay. J'ai une mémoire sélective.
Avec l'espèce d'oiseau là, qui servait d'avion.
Ouais, c'est ça, l'Albatros, avec ses lunettes et son casque. Puis la libellule qui sert de moteur pour la petite feuille.
C'est vrai, oui.
Ah non, moi j'aimais ça, mais c'est ça, c'était un souvenir d'enfant. Là. Ça, c'est une bonne note, là. C'est juste pour dire parce que ça, je l'ai vu au cinéma. Je me rappelle d'avoir au cinéma. L'autre, toi, je l'ai nommé dans tes tops. Moi, je l'ai mis dans mes bonnes notes. C'est Close Encounters of the Third Kind. Rencontre du troisième type. Le Spielberg. Bon, on en a parlé assez tantôt. Là.
Oui. On a tout dit.
On a tout dit. Et je l'ai mis dans mes bonnes notes, pas dans mes tops, parce que, bon, c'est mon réalisateur à vie. Mais ce film-là, il m'a pas marqué autant que les autres. Même si c'est un excellent film, tous ces films qui sont sortis, de toute façon, c'est des bons films. Une Orange Mécanique, 1971, de Stanley Kubrick, est dans mes bonnes notes parce que ce film-là, il fait ça. Mais le film, c'est l'esthétisme du film.
Ah oui. Un espèce de... Ben...
Mais c'est futuriste. C'est un mélange de futurisme un peu. Puis,
de la vision des années 70.
Oui, ça, sociétaire, tu sais, puis totalitaire. Puis, tu sais, une critique de la société de l'époque. Là. Puis Kubrick, c'est ça qu'il était fait avec lui, c'est qu'il ne gênait pas pour le faire. Puis est-ce que lui, un film, c'est une œuvre d'art.
Ouais.
Puis, justement, quand tu joues dans ton film, ben, tu vires fou. Puis c'est rough, là. C'est de la technique, là. Puis l'autre, j'en ai un autre, puis je l'ai pas noté. Ça, c'est à cause de Danny, là. J'y ai prêté un film, puis je me suis rendu compte par après que, crème, c'est vrai, j'ai aimé ça, ce film-là. Le DVD est derrière moi. J'ai prêté à Danny, puis il a pas eu le temps d'écouter encore. C'est Midnight Express, d'Alan Parker. Alan Parker, qui a fait Pink Floyd, The Wall, en 1982, si je me trompe pas.
Un des films du top des lits.
Oui. C'est vrai. Ben oui, Ellie. Salut, Ellie. Béatrice aussi.
Et Julie.
Et Julie, ben oui. Ben excuse-moi, Julie. Ouais, ben oui, la famille au complet. Ouais. Midnight Express, parce que ce que j'aimais de ce film-là, c'est que justement, ben, premièrement, j'ai vu les bonus avant de voir le film. Je parle du DVD, là, parce que le film, c'est vieux, là. C'est vraiment loin, là. Ce que j'ai aimé du film, c'est que c'était sale. Tu sais, tu sentais... toi, tu restes pas vu tout.
Non, mais ça a l'air de ça. Ça a l'air d'être très lourd.
C'est lourd, sale. Les comédiens sont vraiment dedans, là. Ben, Brad Davis, c'est un nobody, là. Il vient de nulle part, le comédien là, principal, là. Puis il est dedans, là. Il croit. Le personnage, là.
Inspiré d'une histoire vraie.
Oui, ça, aussi. Ben, sensiblement vrai, parce qu'au niveau physique, ça correspond pas. Mais le personnage en soi, oui, c'est vrai. C'est un roman qui a été adapté, là. Puis, c'est un souvenir vague que j'ai, là, du film, que c'est pas propre, là. C'est ça. Midnight Express. Bonne note. Fait que c'est ça.
D'accord.
Toto, nomme-les ton film, là. Je l'ai vu, là. Recule.
Alors, dans mes bonnes notes, un autre film que j'ai vu avec ma mère un soir de...
À TV, par exemple, ouais. Ça? À TV?
Oui, oui. Ouais.
Okay.
Orca, 1977, de Michael Anderson, avec Richard Harris, Bo Derek, Robert Carradine. C'est pas Kill Bill, ça?
Oui.
Donc, l'histoire d'un chasseur d'orques qui tue un bébé orque, et la mère du petit revient sans cesse dans les parages, tue du monde, je pense, en tout cas, fait des ravages.
Oui, pas gentil.
Fait que là, le marin, il dit, c'est parce qu'un orque, ça a une mémoire impeccable. Elle sait qui je suis, elle pense toujours à revenir, fait que j'ai pas le choix, faut que je la chasse. Et, ben, finalement, c'est lui qui va crever. C'est sûr qu'à partir du moment où il part, ça ressemble beaucoup à jazz quand même.
Ben, c'est ça mon gros point.
Mais je trouvais que c'était plus sérieux que jazz quand même, comme approche et tout. Okay. À mon souvenir, moi, au début, j'ai vu ça. Je suis pas toi.
Ben, mon souvenir, c'est juste le souvenir, le lien entre jazz puis Orca, puis ça fait quand même mercantile un peu.
Parce que c'est vrai que l'Orc embarque sur le bateau aussi, pour le mordre, le manger.
Oui, whatever.
En tout cas, Vanishing Point.
Ah, c'est ça, je te fais. Hors-onde, je parlais d'auto, de poursuite d'auto, je savais qu'elle arrivait maintenant.
1971. Ben, je me suis arrêté aussi tantôt parce que je disais que les héros meurent, là, à la fin des années 70, souvent. Dans le cas de celui-là, à la fin, au lieu de se rendre aux policiers, ils foncent carrément dans un barrage. Des blocs de béton, des pelles mécaniques. Ils foncent là-dedans, les chars sautent. Un autre road movie qui y ressemble. À la fin, le gars, il y a le train s'en vient, il prend une chance, puis il fonce dans le train, finalement.
Ok, c'est vrai? Ah, ouais. Ok, ça ne me dit rien, là.
Puis il y a mon film de tantôt, là, Birds of Prey, que le gars, il fonce avec son hélicoptère dans l'autre, meurt. Fait que, tu sais, c'était une mode, je pense, à ce temps-là. Évidemment, un duel, un autre road movie, de Spielberg.
Mm. Ben, un pré-jazz, là, en fait. Là.
Ouais. D'ailleurs, il dit lui-même des bonus de jazz. Il dit, j'étais innocent à l'époque. Il dit, je voyais comme une suite logique, quatre lettres, deux monstres. Parce que la vanne, c'est un monstre,
ouais,
en quelque sorte.
Oui, parce qu'on voit jamais le chauffeur.
Oui. Puis quand le monstre, quand la vanne explose à la fin, il a mis un vieux son de dinosaure d'un vieux film des années 20, je ne sais pas bien.
Oui.
Et oui, il a mis le même son quand Jaws explose aussi.
Hein? C'est vrai?
C'est un son modifié.
Là. Oh, faudrait que j'écoute.
Oui.
Mais duel, oui, ça c'est un téléfilm, comme tu dis. Là.
Mais, en tout cas, moi, l'impression que j'ai eue, c'est qu'il y avait des longueurs brouillées. Souvent le même genre de plan. Comme tu me disais l'autre fois, c'est sûr, la vanne fait en sorte de fatiguer la victime, puis que son char va finir par arriver au bout de l'huile, puis tout.
Ouais, ça, ouais.
Mais à un moment donné, c'est long, là. Ça dure plus que 2 heures. J'aurais pu condenser un peu.
Oh, mais c'est un téléfilm, là. Il y a des messages.
Ben, c'est encore pire.
Ben, c'est 1h30, mais il y a des messages. Ça fait 2 heures.
Ouais, mais là, moi, j'écoutais pas de messages.
Oh, ben, en tout cas.
Puis, évidemment, à l'époque, à la télé, format remodifié pour votre écran.
Mm-hmm.
Mais quand ils l'ont ressorti en DVD et qu'ils ont remis au format cinéma, on voit Spielberg dessiner l'arrière sur le siège.
Hein? Ben, voyons donc.
Ben, ça, on le reconnaît peut-être pas. On voit une silhouette, hein. On voit qu'il y a quelqu'un qui est assis en arrière et qui est en train de donner des directives au chauffeur, à l'acteur.
L'acteur qui est le père de Sigourney Weaver.
Oh!
Dennis Weaver.
On en apprend tous les jours.
Mm.
Vous voulez en apprendre tous les jours? Écoutez Cinémascope.
Ouais, c'est ça. C'est son père. Puis, il y en a d'autres?
Non.
Ah oui?
Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, les années 70, bon, c'est les road movies, comme on a dit. Et c'est la naissance de beaucoup de sagas.
Ben, c'est la naissance de beaucoup d'artistes aussi.
Aussi.
Tu sais, de émergents. Là, ouais. Scorsese, Coppola, Spielberg, Lucas, Pacino, De Niro, ils ont commencé là. Moi, ben, les années 70, c'était pas des trips. Là.
Non.
Je suis vraiment allé. Ben, oui, un petit peu, c'est sûr. Mais c'est plus avec ma tête. Là.
Ouais.
Fait que c'est ça.
Ouais.
Il faut finir. C'est la 99e, mais en hommage à Béatrice. Faut les finir mener. Hein?
Et c'était la dernière décennie dans le concept du concours.
Ouais.
Retour vers le passé.
Après ça, c'est...
Parce qu'on s'enligne.
Dans le tirage.
La 100e émission.
Ouhou! Qui va être un spécial qu'on vous ne dira pas tout de suite.
Fait que...
Salut!
Continuez de nous écouter.
Delta, pour mettre vos propres couleurs à l'écran, visitez le www.delta.net.